Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de décembre 2023. Avec des récits qui parlent d'aventures, la grande, qu'elle soit romanesque, politique, poétique, policière et policière, de véritables cadeaux pour les fêtes de Noël et de la fin de l'année. Avec peut-être bien un signe d'espérance, malgré toutes les agressions dont nous sommes victimes. Le premier livre est un roman. L'homme des mille détours, c'est le titre de ce roman, L'homme des mille détours, c'est de Agnès Martin-Lugan que nous retrouvons avec plaisir, édité par Michel Lafond, une diffusion Gilles Paris. Agnès Martin-Lugan s'est imposée sur la scène littéraire française par sa plume délicate et la finesse psychologique de ses récits. Elle a construit en 10 romans, salués par le public et la critique, une œuvre singulière qui questionne l'existence. L'homme dans L'homme des mille détours, en fait, il y a dans cette histoire 2 hommes. Le titre, c'était L'homme au singulier. Il y a 2 hommes dans cette histoire. 2 hommes qui se sont rencontrés au milieu de l'océan Indien. Le premier, c'est Gary, qui est vraiment un très grand plongeur des profondeurs. C'est son métier d'être plongeur. Et Ivan qui est le restaurateur, donc il fait la cuisine, qui est le restaurateur de la plage. Il y a une plage où les gens viennent, et lui, il est le restaurateur de cette plage. Même s'ils parlent peu et sans rien savoir de leur secret intime, ils se sont liés d'amitié. Alors, Gary, qui est en plongée, a eu un malaise, une sorte de dépression, de mal-être, et il allait s'enfoncer dans les fonds marins. Lorsque Ivan, qui était sur le bateau, qui était là, s'en est rendu compte et il l'a sorti du fond marin. Et pour Gary, il avait alors l'impression, quand il est ressorti sur le bateau, à l'air libre et non plus dans les fonds marins, il avait l'impression de tout perdre. Son travail, qu'il aimait pourtant, sa confiance en lui, et ça c'était très important, sa confiance en lui, depuis tout petit, 4-5 ans, il aime être dans l'eau, sous la mer, voilà. Sa confiance en lui, sa vie. Et puis Louise, son ex-femme, même s'il ne l'aimait plus, et qui le faisait travailler, elle était en rapport avec elle, il était en rapport avec elle pour le travail, elle a quitté pour se marier avec un autre personnage. Ils auraient voulu avoir un enfant, mais il n'y était pas arrivé, et ça a semé la discorde dans leur foyer. Et quand le premier, Gary, décide de partir, de regagner la France, de quitter ses horizons, eh bien, le second, Ivan, lui demande une étrange faveur. Au moment d'embarquer dans l'avion, sur le tarmac, de se rendre à Saint-Malo, donc en Bretagne, et de lui donner des nouvelles d'une femme, de celle qu'il a abandonnée 7 ans plus tôt, sans laisser de traces. Donc une chose terrible. Ce qu'il ne sait pas, Ivan, c'est que Gary est originaire de Saint-Malo. Et c'est vraiment par un heureux hasard qu'il va croiser la route de Erin, la femme d'Ivan, qui, elle, Erin, est vraiment choquée de la disparition du père de ses 3 enfants et amant, un disparu depuis 7 ans dont on ne sait rien de lui, un disparu qui vous impose le qui-vive par son absence. Dès qu'on entend un bruit, on se dit « mais est-ce que c'est lui qui revient ?» Et ses 3 enfants, on ne saura jamais s'il est encore vivant ou s'il est mort. On ne peut pas faire le deuil. Ses 3 enfants, ses 3 amours seront ses 3 raisons de vivre désormais et de tenir et s'occuper de la direction de son bar intitulé L'Odyssée. Il y a toute une histoire autour de ce titre, L'Odyssée, que vous comprendrez en lisant ce roman, ce grand roman. Autrefois, du temps d'Ivan, son mari, c'était un restaurant-bar, car lui, je vous ai dit qu'il est restaurateur, cuisinier, donc il sait faire la cuisine, donc c'est lui qui tenait la cuisine du restaurant-bar. Très convoité par les habitants, mais depuis qu'il est parti, eh bien, l'Odyssée n'est plus qu'un bar, mais avec toujours des habitués. Je vous laisse découvrir la suite de ce roman palpitant, avec Gary qui rêvait de fonder une famille avec des enfants, et l'autre, Ivan, qui a fui toute attache. L'homme des 1000 détours, c'est lui qui voulait bien Erin, mais pour lui seul, et partir avec elle vers l'aventure, tel Ulysse. Voilà, pour le premier grand roman, le nouveau grand roman, L'homme des 1000 détours de Agnès Martin Lugan, qui vient de paraître chez Michel Lafon. Le deuxième récit, c'est un roman aussi, mais c'est plus proche du récit. Un monde au-delà des hommes, un monde au-delà des hommes, de Catherine Hermary Vieille, édité par Albin Michel. Catherine Hermary Vieille, que nous connaissons, nous apprécions depuis longtemps, et que nous sommes tout heureux de retrouver ici pour ce témoignage extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire que Catherine Hermary Vieille est entrée dans la peau et dans la tête de ces 2 chefs d'équipe et explorateurs très différents l'un de l'autre, qui vont se trouver dans une compétition inexorable pour atteindre le pôle sud fin 1911. C'est l'une des aventures les plus héroïques du XXe siècle. Une fabuleuse épopée qui nous est racontée avec grand talent par Catherine Hermary Vieille dans ce récit « Un monde au-delà des hommes ». Et on commence, premier chapitre, on commence avec le Norvégien Roald Amundsen, qui était extrêmement familier des conditions climatiques et géographiques des pôles. Non seulement il fut le premier à découvrir le passage nord-ouest entre les îles canadiennes, mais il avait aussi vécu, et ça c'est très très important, il avait vécu de longs mois avec les Inuits, ces Indiens habitués de ces conditions extrêmes, les Inuits, et leurs chiens qui savaient tirer les traîneaux. Et sur le Fram, un navire construit pour pouvoir écraser les glaces en formation, un bateau que le roi de Norvège et Nansen, son armateur, ont consenti à lui attribuer pour ce voyage d'exploration. L'autre chapitre est consacré à l'anglais Robert Scott. Quant à lui, il est officier de marine, avec déjà à son actif une expédition dans l'Antarctique. Lui qui disait que les chiens ne sont pas une priorité pour moi, et c'est dommage parce que les chiens seront vraiment très efficaces dans cette exploration. Il a préféré avoir des poneys, mais qui ne tiendront pas bien la route, avec un caractère très autoritaire, ce qui jettera de l'ombre sur son expédition. Alors, à bord du Fram, le bateau norvégien, ils sont 19, avec 5 traîneaux, 97, je dis bien 97 chiens, une cargaison de caisses ne pesant pas moins de 3050 kilos de nourriture, de vêtements, de fuel, des outils, du matériel de cuisson, ainsi que des instruments de mesure. L'équipage, donc ça c'est sur le bateau, mais ils vont débarquer, mais l'équipage est réduit, mais très compétent. Il y a Olav Bjaaland, champion de ski, Sverre Hassel et Elmer Hansen, tous deux familiers de la conduite de traîneau à chien, Oscar Wisting, habile menuisier, bricoleur hors pair, il sait résoudre tous les problèmes. Et le meilleur de tous, c'est Lindström, le cuisinier, qui saura vraiment les soutenir par sa cuisine élaborée dans les différentes étapes. Et les chiens. Alors les chiens sont, je vous l'ai dit, très nombreux. Il y a des noirs, des feux, d'autres blancs, la plupart de couleurs mélangées. Certains sont amis, d'autres sont détestent. Mais ce sont, disent tous les membres de l'expédition, ce sont nos enfants. Certains ont des noms, pas tous, hein, mais certains ont des noms et on les retrouve lors de l'aventure. Le Fram, le bateau norvégien, jette l'ancre dans la baie des baleines et grâce à une carte jointe à cette édition, on peut voir vraiment tout le périple vers le glacier du Diable, vers le dernier dépôt et le pôle sud, car ils vont arriver au pôle sud. Installation au départ de tous les membres de ce bateau à Framheim, où il y a 8 tentes avec l'équipage qui va explorer, mais aussi les marins. Voilà. C'est aussi un point fixe qui vont vivre en attente hein, de l'expédition et du retour des 5 explorateurs. Il y a une rencontre fortuite à ce moment-là avec les Anglais. Très surpris, ils sont sur le Terra Nova de Scott, le bateau. Ils sont arrivés au cap Evans, qui n'est pas très très loin de l'un de l'autre. Et donc, ils sont tous surpris parce qu'ils pensaient que les Norvégiens allaient partir au nord, mais le nord a déjà été découvert, et c'est pour ça que les Norvégiens vont s'attaquer avant les Anglais au sud, pour affronter le sud. Un affrontement de plus de 3400 kilomètres, d'une terre hostile et glacée. Un roman puissant et évocateur pour raconter les espoirs et les luttes aux limites de la résistance humaine. L'homme, qui ont voulu défier la nature et les éléments. Et c'est la victoire vers le 14 décembre 1911 des Norvégiens par un groupe solidaire, un triomphe dû aux efforts et aux dépassements de chacun. Voilà pourquoi je vous dis un homme, un monde au-delà des hommes de Catherine Hermarie Vieille, paru chez Albin Michel, est une épopée fabuleuse qu'il faut lire et découvrir et méditer. Les Anglais y arriveront aussi après les Norvégiens, mais malheureusement, on voit tout leur parcours sur la carte jointe, on voit bien leur parcours, mais leur retour sera très très difficile et même meurtrier par le froid et la glace et le manque de nourriture. Et puis, ils n'ont plus les poneys sont morts, ils n'ont plus de chiens, et les secours tarderont parce qu'il y aura des secours, mais tarderont à venir, et ils mourront dans la glace. Voilà pour ce deuxième grand roman de Catherine Hermarie Vieille, qui est paru chez Albin Michel. Et puis, j'ai réservé aussi, en troisième position, j'ai choisi l'aventure poétique, avec un recueil intitulé « L'aïeul de déshabiller mémoire ». Oui, c'est un titre un peu étrange. L'aïeul de déshabiller mémoire. Une poésie de Catherine Boudet. C'est l'auteur de ce recueil de poésie, Catherine Boudet. Paru aux éditions des Deux Rues, qui se trouvent à Bourg-en-Bresse. Les éditions des Deux Rues. Et qui vient de remporter le prix Charles Péguy, oui, j'ai dit bien Charles Péguy 2022, de la Société des poètes français. Un livre qui, en 2022, avait été finaliste du prix de poésie Histoire et mémoire 2022. Souvenez-vous, je vous en avais parlé de ce prix de poésie Histoire et mémoire 2022. Un concours qui est très demandé, élaboré donc par un ami qui habite à Bourg-en-Bresse et qui a voulu fêter cet événement. C'est sûr, il fallait profiter de cette magnifique occasion puisqu'il vient d'avoir le prix Charles Péguy 2022 de la Société des poètes français. En préambule de ce recueil distingué, se trouvent des extraits du poème « Ève » de Charles Péguy, paru en 1914. Ève, c'est elle l'aïeule. Voilà, voilà pourquoi. Et je vous lis ces extraits choisis. Vous n'avez plus connu que cette vilénie. Ô pâle aïeule assise entre deux pâles fleurs. Vous n'avez plus connu que la longue avanie. Aïeule déplorable aux yeux pâlis de pleurs. Et moi, je vous connais seule, silencieuse, et seule naufragée aux rives de mémoire, et seule préposée aux rayons de l'armoire, et seule diligente et seule officieuse. Vous n'avez enfanté qu'une horde craintive, tantôt rivée au sol, tantôt victorieuse, tantôt martyre et sainte, et sage ou furieuse. Ô mère, et c'est ma race, et la race captive. J'arrête là, donc, cet extrait du poème Ève de Charles Péguy. Ensuite, eh bien, c'est Catherine Boudet qui s'exprime par des mots qui nous entraînent vers des spiritualités mystérieuses ou méconnues, composées de prose poétique et de poésie libérée. Le recueil déroule le sari de la mémoire et de la tradition, et de tradition venue du fond des âges. Souffle aussi un vent sur ses poèmes, un vent venu des îles Maurice et de la Réunion. Une mystique incarnée par des êtres de la chevalerie spirituelle, parmi lesquels la reine de Saba, que vous connaissez, ou les chevaliers de la Table Ronde. Je vous lis, c'est un recueil de 54 pages à explorer absolument, 13 euros, édité donc par les éditions des Deux Rues. Pour le commander, ben là, il y a le https www.éditions au pluriel des Deux Rues. Le 2 n'est plus, et le chiffre 2. rue.com, voilà, www.éditions au pluriel des deux rues, le chiffre de rue.com. Et je vous lis trois poèmes pour vous mettre l'eau à la bouche. Le premier poème de ce recueil, Retour de l'ombre. Tu es debout devant moi, et voici que je peux enfin te redonner une ombre. Le retour, un peu plus cruel peut-être, dans ta bouche viennent mourir les heures. Je regarde refluer les derniers mots d'une poussière fine qui se dépose entre nous et soude les interstices. Je choisis un deuxième poème. Il y en a d'autres, hein. De ce qu'il reste. Elle aime bien cette expression de ce qu'il reste. Je regarde ce qu'il reste, et je sais que les oiseaux feront peu de cas du cadavre des jours qui pendent à mon cou décharné de déesse déchue. J'ai labouré de mon corps ce champ de larmes qu'on appelle l'amour. J'y ai planté mes ongles. Ils font de petites flaques rouges sang dans la nuit. Je me suis promené jadis dans les ruelles en fête d'une cité de jade, où les lumières sont à présent éteintes, et la reine du carnaval a piétiné sa couronne. Il faudrait empêcher les oiseaux de dévorer les yeux de l'amour qui dort sur son lit d'épines sèches. Il ne retrouvera plus le chemin du retour entre les herbes hautes. Certaines histoires ne s'écrivent pas et les cités de jade restent à jamais éteintes. Un troisième poème que j'aime beaucoup, Le peintre des mirages. Le peintre des mirages, c'est celui que je vois chaque nuit quand le sommeil me refuse sa clémence. Il peint je ne sais quelle ombre qui passerait par là, s'étant fait belle pour séduire l'artiste, et moi je reste à contempler son reflet sur la vitre. Le peintre des mirages sait maquiller les cœurs, il peint des paysages qui reposent nos yeux lasses et des rivières de lait où se noient les pensées. Le peintre des mirages a fait de mes tourments une si belle étoile que les ombres en dansant lui ont ravi le cœur. Le peintre des mirages a rangé ses pinceaux et le soir, en tombant, lui fait comme un rideau. Voilà, je m'arrête là, je pourrais continuer, bien sûr. C'est à vous de continuer la lecture de ce recueil de poésie de Catherine Boudet, L'aïeul de déshabiller mémoire. Une poésie parue aux éditions des Deux Rues et qui vient de recevoir le prix Charles Péguy 2022. Et l'on fait une pause musicale en écho avec Patrick Subreville, qui a rendu hommage dans son émission dernière à Johannes Brahms. J'ai choisi justement la sonate pour piano numéro 2 de ce Johannes Brahms, composé à Hambourg en novembre 1852, une œuvre, vous allez voir, romantique, pleine de jeunesse, de verve et d'une grande liberté d'expression. Nous écoutons le troisième mouvement, parce que je ne peux pas vous faire tout écouter, le troisième mouvement, le scherzo, voilà, interprété par la divine Hélène Grimaud, que j'adore depuis longtemps, et qui vient d'écrire un nouveau livre intitulé « La musique est une ouverture à l'infini ». C'est elle, je vous le rappelle, qui, quand elle joue, elle voit des couleurs dans la musique. N'est-ce pas que c'est très beau? Je ne peux pas vous faire entendre la suite. Ce serait trop long. Et j'ai des romans, des livres à vous présenter. Le quatrième, j'ai parlé aussi d'aventures politiques. Et voici donc un témoignage inédit de Vera Granceva. Les Russes, le titre, les Russes veulent-ils la guerre ? Avec un point d'interrogation, édité par le Cerf, un grand éditeur. Là aussi, c'est une diffusion, Gilles Paris. Gilles Paris. Une grande question, voilà, qui est posée par Vera Granceva. Elle a travaillé comme experte pour les relations internationales à la mairie de Saint-Pétersbourg entre 2008 et 2016. Elle était professeure associée de l'École des hautes études en sciences économiques en Russie, où elle a enseigné la géopolitique entre 2017 et 2023. Donc, elle sait bien de quoi elle parle. Elle est enseignante à Sciences Po Paris depuis 2020. Elle est chroniqueuse sur LCI. Son étude « Les Russes veulent-ils la guerre ?» est tout à fait magistrale. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la société russe présente une énigme, car les sondages officiels montrent que plus l'armée russe commet de crimes, je dis bien de crimes en Ukraine, plus les Russes ordinaires soutiennent le président Vladimir Poutine. Et en même temps, les autorités n'arrivent pas à recruter les citoyens pour aller prouver par des actes leur soutien au gouvernement. Et le gouvernement n'a pas d'autre choix que de forcer les hommes à aller combattre ceux qui sont traités de nazis dans le pays voisin. La réalité montre aussi que dans les cafés, les théâtres et les cinémas, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg et dans d'autres grandes villes, eh bien, la guerre n'existe tout simplement pas. Les Russes continuent à mener leur vie ordinaire, à fermer les yeux sur les bombardements des villes ukrainiennes et à faire semblant que l'invasion de leurs voisins ne les concerne pas. Comment expliquer cette indifférence, ce déni de réalité et cette apathie éthique et politique? Bien évidemment, le régime répressif et la propagande massive jouent un rôle important dans la zombification. Oui, elle prend le mot dans la zombification de la population. Mais il y a aussi d'autres facteurs élaborés dans ce récit que vous suivrez, qui la rendent ainsi indifférente, cette population, qui la rendent ainsi indifférente et passive. Oui, Poutine a bien voulu cette guerre pour redorer son blason vis-à-vis des Russes nostalgiques de l'URSS. Mais, Mais dans cet ouvrage, Vera Grantseva, née pendant la perestroïka, tente de comprendre ce qui se passe là-bas en Russie et de montrer qu'en dépit des apparences, le peuple russe n'a pas d'esprit servile. En particulier, la jeunesse qui se sert d'Internet, ce qui leur permet de prendre du recul et d'observer le monde extérieur et de désirer le rejoindre, ce monde extérieur. Et donc Vera Grantseva pense que les chances pour que les Russes et les Européens finissent par s'entendre, eh bien, que ces chances existent bien. Voilà. Je pense que l'avenir nous le dira. Et je passe à un cinquième roman, une aventure historique, une grande aventure historique, parce que c'est un très gros livre, qui nous vient d'Angleterre, avec comme titre « Les régicides », et on voit un cavalier qui surgit de l'ombre. « Les régicides » de Robert Harris, édité par Belfond, qui est son éditeur, depuis trois romans. Édité par Belfond, « Les régicides » de Robert Harris. Au départ, nous sommes en 1660, dans un pays qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, en Amérique. Après une longue traversée de l'Atlantique, un bateau, le Prudent Mary, déverse sur le port de Boston, qui existe déjà, le port de Boston, son lot de marchandises et de passagers, en provenance de la mère patrie anglaise. Parmi ces passagers, deux hommes en fuite. Le colonel Edward Wallet et son gendre, le colonel William Goff, dit Willy Goff. Ils sont signataires de la condamnation à mort de Charles Ier Stuart, alors que le protectorat, dont ils étaient des partenaires efficaces, vient d'être renversé pour faire place à une monarchie restaurée, Wallet et Goff n'ont d'autre choix que de quitter leur pays et leur famille pour trouver refuge loin de Londres, surtout le plus loin possible de Richard Neller, déterminé à les retrouver. De même, ceux qui restaient en Angleterre se cachent et qui ont voté la mort du roi. Donc, d'être des régicides, ce sont eux les régicides, qui retrouvés, eh bien, auront la tête tranchée, et puis même d'autres sévices qui sont terribles. Fervent royaliste, Neller s'est donné donc pour mission de retrouver un à un tous les signataires qui, parmi eux, certains l'ont incarcéré sans raison, causant la mort de son épouse adorée et la perte du bébé qu'elle attendait. Donc, un esprit, pour chez Neller, il y a un esprit de vengeance. Et la perte du bébé qu'elle attendait. Et donc, on circule des cachots dans ce roman, dans ce grand roman, on circule, des cachots de la tour de Londres, oui, débordant des anciens partisans de Cromwell, il est là, Cromwell, lui, il va mourir, au vaste, on va de cette Angleterre, aux vastes étendues d'une Amérique que l'on peut voir sur une carte jointe à cette édition, où frémit dans ce monde un désir d'émancipation. Neller ne reculera devant aucun océan, aucune frontière, pour satisfaire sa soif de vengeance. Et les deux fugitifs devront vivre cachés, même chez les Indiens, à Windsor ou à Hadley. On y parle aussi dans ce grand roman de New Amsterdam, plus au sud, qui deviendra, avec la bataille du duc York, eh bien, qui deviendra New York. Bataille entre les Hollandais et les Anglais, remportée par les Anglais. À Londres, on revient sur Londres, où on retrouve Neller et puis une femme ardente, la femme de Will Goff, qui s'appelle France, avec un S, France. Et les enfants de celle-ci. Alors elle est obligée, la situation devenant difficile, elle est obligée de changer de lieu d'habitation, de retrouver quelque chose. C'est la fille de Wallet, hein, puisque Wallet est son père. Une femme ardente qui recherche bien sûr des nouvelles des deux fugitifs, et qui parviendra à leur écrire, donc on retrouvera cette correspondance à Hartford ou à Newhaven. Et dans les remerciements, Robert Harris, s'il dit que Neller est un personnage de fiction, eh bien, tout le reste repose sur des vérités terribles et exactes, tant l'opposition farouche qui existait au XVIIe siècle entre les républicains puristes, partisans de Cromwell, et les royalistes, ainsi que la description de la Nouvelle-Angleterre avec Boston, favorable au roi. Voilà pourquoi les deux fugitifs sont obligés de se cacher, de vivre dans des caves ou dans des lieux retirés. Ce roman est vraiment une chasse à l'homme hors du commun et une très grande aventure que je vous invite à lire pour les fêtes de Noël, voilà. En sixième position, j'ai choisi une aventure policière. Celle de Michael Connelly, intitulée « L'étoile du désert ». Qu'est-ce que l'étoile du désert, paru chez Calman Levy, une édition noire de chez Calman Levy? Eh bien, cette étoile, c'est une fleur blanche de toute beauté qui pousse au cœur du désert. Voilà pourquoi il a choisi ce titre-là, l'étoile. En majuscule, l'étoile du désert. Après avoir quitté le Lapédé, Nous sommes toujours avec Michael Connelly. Il aime bien Los Angeles, qu'il connaît bien, qu'il traque de rue en rue, Los Angeles, donc est bien présent dans ce roman. Donc la société, le policière, l'APD, rongé par la misogynie, le défaitisme et la bureaucratie, René Ballard, dans ce roman, on retrouve associé ensemble à la fois Bosch et Ballard, associés pour que la justice soit faite. Eh bien, cette René Ballard revient prendre la direction de l'unité des affaires non résolues, récemment reformées. Oui, parce que il y en a des affaires non résolues. Elle y recrute des stars de la police qui devront accepter de travailler bénévolement, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous, bénévolement et en toute conscience. Et parmi ces stars de la télé, elle pense faire une demande à Harry Bosch, voilà, qui est maintenant à la retraite depuis déjà quelque temps, que nous sommes très heureux de retrouver, car pour nous, lecteurs, Hieronymus Bosch a acquis une dimension extraordinaire à travers toutes ces enquêtes menées. Il va donc aider René Ballard, qu'il connaît bien, à résoudre l'affaire de deux jeunes femmes tuées de la même façon à 10 ans d'intervalle. Il ne saurait refuser cette aide, car avec toutes les ressources du LAPD, peut-être pourra-t-il en profiter pour arrêter le psychopathe qui a abattu froidement toute une famille de 4 personnes, y compris 2 jeunes enfants, dans le désert de Mojave, où se trouve cette étoile du désert, à côté de la pierre tombale. Et il n'a jamais retrouvé ce psychopathe, une affaire alors qu'il était en pleine activité, et qui continue à le hanter très souvent. Alors il va donc accepter d'aider René Ballard. Et s'il respecte Ballard, qui est la directrice de cette unité, Bosch supporte mal son autorité. Cela fait partie de son caractère indépendant. Et cela risque de nuire à leur travail. Et les tueurs, eux, eh bien les tueurs, n'entendent pas se laisser prendre après toutes ces années d'impunité. Nous avons donc là de très belles enquêtes, il y en a 2 enquêtes, et un grand suspense. Surtout pour Bosch, parce que le temps presse, pour Ballard, et pour Bosch surtout, et vous comprendrez pourquoi en lisant ce superbe roman noir, dans lequel Michael Connelly est au meilleur de sa forme. Ici, dans ce nouveau roman, il est bien le maître du roman policier contemporain. Voilà, Michael Connelly, je voulais... Oui, m'arrêter sur ce très beau roman, ce dernier beau grand roman de Michael Connelly, intitulé « L'étoile du désert ». Oui, juste dire que Harry Bosch arrivera quand même dans cette grande aventure à retrouver le psychopathe qu'il avait cherché depuis très très longtemps. Voilà, donc on peut arrêter parce que je n'ai plus beaucoup de temps, sinon je voulais parler de Bernard Minier, Territoire du mystère. Bernard Minier qui dit que des accidents, j'en ai eu en nombre, j'aurais pu perdre la vie 10 fois et surtout la faire perdre à d'autres. Ma seule excuse, j'étais jeune, inconscient. Les messages de prévention routière n'existaient quasiment pas. Et certaines de mes idoles littéraires d'alors, Hemingway, Miller, Rimbaud, Lovry, n'étaient pas connues pour leur tempérance. À défaut d'avoir leur génie, ce que je compris très vite, j'essayais d'imiter leurs vices et leurs folies. Bernard Minier nous transmet dans un livre, un recueil, sa passion des grands textes et de l'écriture à 100 à l'heure, et un tour de force aussi étourdissant que virtuose. Il avait son premier roman écrit Glacé, qui existe maintenant en presse pocket, en pocket, figure dans la liste du Sunday Times des 100 meilleurs polars publiés depuis 1945. Alors il a son personnage, son grand personnage, le commandant Martin Servaas, et une série de 8 romans dont Un œil dans la nuit, édition XO édition, qui est paru en 2023. Et puis, j'aurais parlé d'un autre personnage qu'il a créé, une femme, Lucia, voilà, qui existe en pocket aussi. Lucia, c'est l'inspectrice Lucia Guerrero, porte bien son nom. C'est une guerrière, une vraie. Mais ce soir-là, le cœur lui manque. Sous une pluie torrentielle, le cadavre de Sergio, son coéquipier, à la police judiciaire madrilène, oui, avec Lucia, nous sommes plongés en Espagne, à Madrilène, à Salamanque, et à Ségovie. Donc le cadavre de Sergio, son coéquipier, à la police judiciaire de Madrilène, joue les Christ au calvaire, nu, les bras en croix, la peau collée à la glu. Pourquoi une telle mise en scène? Et quel rapport avec cette ancienne série de crimes exhumée par un programme expérimentale de l'université de Salamanque? Dans ce roman, il y a une très belle description de Salamanque, de cette ville que j'ai la chance de connaître, qui est vraiment une merveille. Donc, de l'université de Salamanque, cette intelligence artificielle de criminologie, la première en son genre, est formelle. Les meurtres sont inspirés de peintures de la Renaissance. Et on retrouve les peintures de cette Renaissance. Entre vraies copies et faux semblants, le chemin sera long pour Lucie, qui devra sortir de l'ombre à la lumière. Et elle y parviendra quand même. Mais attention, attention, car le traître ou l'assassin n'est pas loin de vous. Voilà, donc je m'arrête là-dessus, sur ce témoignage cette découverte littéraire, pour moi incontournable aussi. Voilà, donc, voilà bien des livres, vous verrez, pour les fêtes, de quoi L'homme des mille détours d'Agnès Martin-Lugan, nouveau roman paru chez Michel Lafon, Un monde au-delà des hommes de Catherine R. Marivieille, paru chez Albin Michel, L'aïeul de Déshabiller mémoire, poésie de Catherine Boudet, édition des Deux Rues qui vient de remporter le prix Charles Péguy 2022 de la Société des poètes français. Un roman sur les Russes veulent-ils la guerre au cerf de Vera Grandseva de Robert Harris. Les régicides, un grand roman de Belfond Noir de Robert Harris, le grand Robert Harris. Et puis Michael Connelly, L'étoile du désert, Calman Levy, édition noire de Calman Levy, un grand et dernier retour de Harry Bosch. Et je vous dis à l'année prochaine, voilà. Passez de bonnes fêtes, les uns les autres, en famille, j'espère, et non pas en solitude, ou alors avec ces très bons romans, ces très bons livres, qui vous porteront longue vie. Voilà. Au revoir.